pour cette dernière matinale de l'année, nous allons recevoir Jules, qui nous fait le plaisir de retracer à grands traits l'actualité 2017 au prisme de la mythologie grecque. Bonjour Jules.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes dessinateur, scénariste, élève de l'école normale supérieure, agrégé d'histoire, puis dessinateur. Vous n'avez jamais vraiment abandonné votre casquette d'historien. Comment croquer son époque? Comment l'humour permet-elle de mieux véhiculer le savoir, connu pour votre série Silex and the City, qui nous plongeait 40 000 ans avant Jésus-Christ, et désormais à Zeus, Poséidon, Narcisse et compères que vous attaquez avec le philosophe Charles Pépin. Vous signez 50 nuances de grec, est paru en novembre et édité chez Dargo. Qu'est-ce que les mythes de l'Antiquité ont encore à nous apporter aujourd'hui? Quelle lecture peut-on en faire? C'est un certain nombre de questions qu'on va se poser ce matin ensemble. Mais d'abord, on a une tradition quand on ouvre cette première partie des matins, c'est qu'on a un son du jour. Je ne vais pas l'annoncer, vous allez le reconnaître.
Mes chers compatriotes, depuis des années, je vous rencontre, je vous écoute, je dialogue avec vous. Un lien s'est créé entre nous. Dans 3 mois, vous choisirez un nouveau président. Vous le ferez dans une période difficile. Vous voyez mal l'avenir, vous êtes dans le doute. C'est pourquoi j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République.
Vous l'avez pas reconnu, Jules, et c'est Raymond Barre.
Eh oui, c'est un de mes premiers personnages.
Et c'est pour ça qu'on l'a choisi ce matin.
Quand j'étais petit, mais c'est probablement une espèce de dysfonctionnement mental, hein, parce que vers l'âge de 7 ans, quand je faisais des petits dessins d'actualité déjà, pour commenter les choses, ça m'avait frappé parce qu'il était ministre de l'économie, et il y avait cette histoire de serpent monétaire. Alors pour un enfant, le serpent monétaire, c'est tout d'un coup, ça devient complètement fascinant. On imagine une espèce de dragon, de créature mystérieuse. Je me rappelle avoir fait des blagues sur la question. Donc,
c'est un de vos premiers dessins, finalement.
Oui, première caricature. En tout cas, d'actualité. Voilà.
Ouais, et puis, évidemment, un physique et un caractère qui s'y prêtaient. Un homme carré dans un corps rond, c'est lui qui le disait.
Ah, voilà.
Alors, on vous reçoit, Jules, ce matin, notamment pour cette encyclopédie revisitée, légèrement adaptée à l'actualité contemporaine, ou l'inverse, je ne sais pas comment il faut dire. Un concentré d'humour. En tout cas, je me suis beaucoup amusé hier en vous lisant. Un très savoureux mélange entre de vrais contes mythologiques avec les grandes figures qu'on connaît, Zeus, Poséidon, Icare, Achille, Pénélope, que vous projetez dans le monde de 2007. En fait, il y a sur chaque page une mise en regard entre, d'un côté, un texte de Charles Pépin qui résume un peu l'histoire de ces personnages mythologiques qu'il saupoudre d'analyses et de références philosophiques en convoquant des philosophes comme Lacan, comme Hegel, comme Nietzsche, comme Platon. Et puis sur l'autre page, on retrouve une adaptation dessinée sous forme de planche sur laquelle vous catapultez vos personnages mythologiques dans notre présent et dans notre actualité. Pourquoi être allé puiser, Jules, dans la mythologie grec pour cette dernière BD? Comment vous est venue cette idée? Et en quoi, selon vous, l'imaginaire de la mythologie vous semble particulièrement efficace pour éclairer notre actualité?
Alors en fait, moi, c'est déjà un procédé que j'utilise régulièrement, c'est-à-dire de prendre de la distance. Moi, je viens du dessin de presse, du dessin d'actualité, et puis ça fait une douzaine d'années que je fais de la bande dessinée, et j'ai jamais complètement rompu avec la satire du monde contemporain. Ce qui m'intéresse, c'est le monde qui m'entoure. Et en même temps, je me suis toujours nourri à la fois de littérature, de philosophie, et évidemment d'histoire. Moi, au départ, j'ai une formation d'historien, et donc j'ai toujours utilisé des choses pour voir aujourd'hui au prisme de cet arrière-plan historique. Évidemment, j'ai pas inventé ça. Moi, mes grands modèles, c'est René Goscinny avec Astérix, avec Lucky Luke. Il parlait quand même de la France de Gaulle, la France des années 70. C'est un peu cette même disposition-là. Il y avait Gottlieb avec les rubriques à bras qui lui aussi faisait des petites leçons d'histoire en mettant des personnes en costume, mais il parlait de nous, il parlait d'aujourd'hui, à la fois de choses universelles et d'actualité.
Mais est-ce que la mythologie faisait partie de votre imaginaire ou est-ce que...
Alors, la mythologie, moi, m'a complètement nourri, comme, je dirais, presque tous les enfants. Aujourd'hui, moi, quand j'ai travaillé sur 50 nuances de grec, évidemment, j'ai fait des recherches, j'ai repris des choses que j'avais lues, et puis j'ai exploré des dimensions de généalogie, de lutte interne entre les dieux, les héros, que j'avais un petit peu oublié. Mais mes grands spécialistes que je consultais, c'était les enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que la génération des 5-15 ans, ils en savent beaucoup plus que tout Jean-Pierre Vernant réuni. En fait, ils collectionnent les mythes, les personnages, comme on collectionnerait les Pokémon, et ils savent des choses incroyables. Et donc, ils sont incollables et je pense que ça va les accompagner. Parce que nous, cette mythologie, bien sûr, elle nous accompagne, on les connaît, les grands personnages, on les utilise, mais elles sont passées aussi dans le langage commun, dans des expressions dont on ignore finalement l'origine mythologique, l'origine gréco-latine. Et en fin de compte, de faire ressortir ça et de voir comment, en fait, pas seulement notre actualité, mais nos passions sont tordu, informé, complètement déterminé par cet héritage-là, plus bien souvent que l'héritage judéo-chrétien, qu'on a l'impression qu'il est voilà, l'alpha et l'oméga de notre civilisation. En fait, non, il y a plein de choses, et on en parlera, qui, autour de nous, sont les enfants et petits-enfants directs de ces luttes incroyables entre les dieux, de ces destins tragiques ou tragicomiques de héros. Et c'est ça, par le biais de l'humour, qu'on essaie de mettre en scène avec Charles Pépin.
Alors, de l'humour, il y en a. Le dieu Pan, par exemple, dieu des bergers, des pâturages et des bois, mi-homme, mi-bouc, qui se cache dans les buissons à l'affût des nymphes. Vous avez choisi de convoquer le dieu Pan autour d'une affaire assez ancienne. Alors,
Oui, parce qu'alors il se retrouve devant un juge.
Vous la décrivez ?
On est dans un tribunal comme ça, et puis le juge dit oui, écoutez, je sais que vous avez une sexualité très libérée. Je veux pas mettre en cause vraiment votre mode de vie. Bon, chacun son choix, mais il va falloir expliquer quand même vos liens un petit peu sulfureux avec un fameux proxénète qui s'appelle Dionysos la Saumure, et donc qui fait des parties fines au Carlton de Delphes et au Sofitel Mykonos. Évidemment, Pan, c'est cette partie justement animale, bestiale de la sexualité dévorante des Grecs, et en fin de compte, une des choses quand même principales qu'on trouve chez les hommes comme chez les femmes dans le panthéon grec et aussi parmi les héros, c'est Eros et Thanatos, et c'est ce goût débridé pour la sexualité, pour l'absence de barrières, qui fascine les mortels. Hein, et on a toujours ces espèces d'exemples-là. Ils sont souvent punis, hein, tout ça va avec la violence, l'amour est jamais très loin de la mort.
Et malheureusement, pas toujours, justement, parce que l'actualité de 2017 a été foisonnante, en particulier vers la fin de l'année, sur cette question-là, avec l'affaire Weinstein,
cette question-là.
Mais qui s'est étendu partout dans le monde.
Si on s'arrête, moi j'ai travaillé sur cet album pendant 3 ans, donc c'est quelque chose qui m'habitait, et d'un seul coup, je me suis rendu compte, parce que cette année a fleuri justement l'affaire Weinstein, tous ces hashtags balance ton porc, le hashtag balance ton porc, quasiment tous les dieux de l'Olympe mériteraient de le voir accolé à leur biographie, parce que Zeus, Apollon, Hermès, Dionysos, les centaures, Pan. Tous autant qu'ils sont des harceleurs en chef. C'est des gens qui ont passé leur vie à courir, à se transformer, à courir après les filles, à les violer, à les enlever. Dans la bande dessinée, on voit Zeus qui est chez son avocat et qui galère parce que il a engrossé tellement de mortels, de demi-dieux et de déesses qu'il a une progéniture pléthorique et maintenant il doit payer des tonnes et des tonnes de pensions alimentaires.
Ça va lui coûter cher en pensions alimentaires. C'est au-delà de la caricature et de l'humour que vous faites émerger de toute cette affaire, c'est une question qui vous touche, qui vous inquiète. Vous pensez qu'il y a urgence à évidemment mieux respecter les droits des femmes, à établir plus d'égalité entre les hommes et les femmes?
Je pense que ce serait ridicule de dire le contraire.
Ridicule de dire le contraire, mais vous êtes mobilisé pour ça. 31 octobre dernier, vous avez participé à un numéro du magazine féminin Cosette qui réunissait des personnalités autour de ces questions-là. Vous y avez participé?
Moi je suis... Ça m'intéresse énormément ces questions-là à tous égards depuis longtemps. Moi, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Précédemment, avec Charles Pépin, on a fait une série d'albums qui s'appelait La Planète des Sages, qui était une encyclopédie de philosophie. Il y a eu 2 tomes là-dessus, et on explorait justement sous un angle philosophique ces choses-là. Et je me rappelle à ce moment-là avoir découvert toute une littérature justement à la fois sur le genre, sur l'affirmation de paritariste et sur ces espèces d'interrogations qu'on peut avoir en cette fin et en ce début de millénaire, plutôt. C'est autour de Judith Butler, par exemple, qu'on mettait en scène sur les questions. On disait les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Alors Judith Butler n'était pas du tout contente. Elle partait en soucoupe volante pour conquérir d'autres galaxies. Et oui, bien sûr, c'est quelque chose à la fois de capital et en même temps, du point de vue du satiriste, très amusant à mettre en scène. Je me rappelle qu'il y a un dessin que j'ai fait qui décrivait ça avec Nif Nif, Naf Naf et Nouf Nouf, les 3 petits cochons qui disaient « Oh là là, j'espère que le loup n'est pas sur Twitter, sinon on va avoir un hashtag très bientôt. »
Oui, puis vous évoquez aussi, par exemple, la question du chômage. Et là, vous convoquez Héraclès qui se présente à Acropole Emploi.
Ah oui, parce que Héraclès, s'il était projeté aujourd'hui, il n'aurait pas du tout 12 travaux. Il n'arriverait même pas à avoir un seul travaux. Il dit, vous ne pouvez pas me trouver un travaux. Évidemment... Si on regarde aujourd'hui les derniers débats sur la réforme du système d'assurance chômage, avec cette espèce de méga contrôle des chômeurs à venir qui se préparent, on est dans ces espèces de défis d'ordalie grecque où les gens sont punis finalement pour des crimes qu'ils ont commis ou que quelqu'un d'autre dans leur génération aurait commis et qui doivent, aller au-delà de ça. Hein. Hercule, à Pôle emploi aujourd'hui, aurait quand même pas mal de choses à faire.
Charon. fils de l'Ereb et de la Nuit. Charon était représenté sous les traits d'un vieillard portant une cagoule. Il choisissait ses passagers parmi la foule qui s'entassait sur la rive. Ceux qui avaient mérité un enterrement étaient choisis, à condition évidemment qu'ils payent. Les autres étaient condamnés à errer sur les bords de la rive pendant 100 ans. Vous avez dessiné, vous, Charon, qui se plaint des passeurs qui transportent les Kurdes, les Tchadiens. Ces passeurs sont en train de casser le business, dit-il.
Et oui, parce que Charon, il amène les mortels aux enfers et normalement on lui donne une obole pour traverser. C'est pour ça que les morts dans la Grèce antique avaient entre les dents une pièce d'une obole au moment où ils étaient inhumés pour pouvoir payer le nocher funèbre, celui qui allait les amener du côté du monde de l'au-delà. Et aujourd'hui, le monde de l'au-delà, bah, il est bel et bien ici et c'est la tragédie des migrants. Quand on met en scène ces grands éternels de notre histoire, de l'humanité, on peut pas ne pas se heurter à cette question-là qui est brûlante. J'entendais, je crois que c'était Annie Arnaud qui évoquait les mots de l'année en disant voilà, migrants, c'est quelque chose, c'est pas nouveau et à la fois ça nous hante. Mmh. Évidemment, moi, c'est quelque chose plus encore peut-être qui m'habite et qui me hante nettement. Et on pouvait pas mettre en scène les dieux d'Olympe sans parler de ça aussi. Et donc, effectivement, de voir que tous les passeurs qui font couler, qui entassent 300 personnes, 300 familles et qui les font couler au large de la Méditerranée, même pour le nocher des enfers, c'est quelque chose qui est insupportable.
Alors, il y a évidemment la mort qui les attend, mais pas seulement ça. Dans le texte de Charles Pépin qui va justement avec Charon, on lit la chose suivante. Pour les Grecs, la véritable mort, c'est l'oubli. Voilà pourquoi les héros n'ont pas peur de mourir au combat. Ils savent qu'ils resteront dans la mémoire des hommes. Précisément pour les migrants, il y a le drame de la mort, mais il y a aussi le drame du fait qu'ils tombent dans l'oubli.
Ben oui, c'est ça, c'est cette espèce de grand tombeau maritime, d'absence de sépulture, de gens qui vivent dans l'oubli et qui meurent dans l'oubli. Donc évidemment, il y a cette question. Ouais. Pour Silex and the City, ça avait été un sujet aussi quand je travaillais sur cette série, à la fois en dessin animé et en BD. Et le dernier album, il s'appelait Pulp Fiction, et c'était l'histoire d'un jeune céphalopode qui demandait asile au Paléolithique, parce que ça devenait insupportable de vivre dans son époque. Et il y avait une victoire électorale du Front Néandertal, et il devait traverser de nouveau la Manche pour essayer de rejoindre l'Angleterre. Et en fait, cet album, on avait versé une bonne partie des droits à la CIMAD, en fait, à l'aide aux réfugiés, ouais. Parce que justement, pour dire qu'à la fois, bien sûr, c'était un sujet, ça pouvait être œuvre de divertissement et en tout cas de critique, de satire, mais qu'il fallait que ce soit quand même ancré dans une forme de réalité et que ce soit pas juste gratuit.
Alors, si on reste dans le tragique, Jules, il y a quelques jours, l'Institut IFOP a demandé aux Français de classer les faits et les événements survenus en 2017 qui les inquiétaient le plus. Et 96% des personnes interrogées, pas très étonnant, se sont dit inquiets par les attentats et la question du terrorisme. Cette question-là, elle n'est pas dans cet album. Pour quelle raison ? Est-ce que c'est un choix ou est-ce que, au fond, l'acte terroriste est difficile à associer à une figure, à un conte mythologique ? Enfin, pour quelle raison ? Pourquoi ?
C'est un sujet, moi, devant lequel je ne recule pas forcément. Dans Silex and the City, je l'ai beaucoup traité.
Voilà.
Là, c'était moins évident à mettre en scène. Il y a, en fait, par contre, les conséquences, les résultats de cet esprit un petit peu sécuritaire, de cette peur de l'attentat, parce que le terrorisme, avant tout, c'est du discours, c'est de la communication et c'est de l'image. Parce qu'en fait, le fait terroriste tue évidemment beaucoup moins que bien d'autres syndromes psychosociaux. Il y a plus de gens qui se suicident que de gens qui meurent du terrorisme chaque année, ou de l'alcoolisme, ou des accidents de la route. Tout le monde le sait. Pour autant, c'est pas moins grave, parce qu'on ne peut pas avoir une approche quantitative. C'est une approche des représentations. Le terrorisme est fait pour être vu, pour terroriser précisément, par définition. Et donc, à partir du moment où on arrive à le mettre à distance et à en rire, on a déjà gagné la moitié, on a fait la moitié du chemin envers le terrorisme. On n'arrêtera pas forcément tous ces gens qui préparent des meurtres, de la destruction autour d'eux. Mais au moins, si on arrive à avoir une forme de légèreté, de reprendre une forme de liberté soi-même par rapport à ça, c'est une victoire extraordinaire. Dans le 50 nuances de grec, ils ont adopté le plan Vigipiré. Alors, ils ont peur du terrorisme spartiate, du terrorisme perse, du terrorisme de tous les autres peuples qui accompagnent l'Antiquité. Et finalement, c'est plus amusant et plus intéressant de les mettre en scène dans leur peur et dans leur gestion de leur peur
que de mettre en scène les terroristes eux-mêmes.
De mettre les mains dans la bidoche. la mythologie grecque est suffisamment violente. Il y a la guerre, par contre, qui est évidemment présente, pour en plus en rajouter une couche.
Comment est-ce que vous faites, Jules, pour, à partir d'un personnage mythologique, associer un fait d'actualité qui va résonner ? Lequel conduit l'autre ?
Oh, c'est un dialogue, c'est une navette en fait. Quand on trouve une idée en humour, moi j'ai remarqué ça, c'est vraiment comme une pelote de laine. On tire un petit fil et on ne sait pas combien de temps on va pouvoir le dérouler. Et parfois, c'est quasiment infini. Bah, c'est une espèce de fil d'Ariane de la blague.
Et quel est peut-être le personnage mythologique pour lequel ça vous est apparu comme le plus évident, le plus facile ? Le premier peut-être, les premiers qui vous sont venus pour 50 nuances de grec.
Moi, il y en a un, en fait, qui n'est pas un dieu d'ailleurs, mais qui a souvent maillé à partir avec les dieux, qui pour moi incarne, à la fois, il est très admirable, et il incarne une espèce de dérive et de syndrome particulier de notre société, de technologique, c'est Dédale. Dédale, c'est une espèce d'immense génie. Dédale, c'est un personnage d'ailleurs qui a des occurrences historiques, probablement. C'est pas seulement un personnage imaginaire ou mythique. Et lui, c'est ce grand génie qui, pour complaire à la femme du roi Minos en Crète, construit une espèce de maquette de cheval à travers laquelle elle pourra avoir des rapports sexuels avec le taureau blanc. Elle va donner naissance au Minotaure, ce monstre-là, pour s'excuser. Dédale va créer le labyrinthe à la demande du roi Minos, dans lequel il va enfermer le Minotaure. Mais de nouveau, à la demande d'Ariane, il va lui souffler un certain nombre de stratagèmes pour sauver Thésée. Ensuite, quand il se fait enfermer pour être puni de nouveau, il va inventer le système avec les ailes où son fils Icare va brûler, et ainsi de suite. C'est-à-dire que sans cesse, c'est un grand génie qui fait des inventions les plus révolutionnaires, mais à chaque fois, il doit réparer les conséquences néfastes de ses inventions. Et ça, c'est vraiment notre histoire de la fuite technique. Si on parle du nucléaire, si on parle des OGM, si on parle de choses autour de la santé, des manipulations génétiques comme ça, on se rend compte qu'on est vraiment là-dedans, dans cette fuite en avant. Donc Dédale, c'est à la fois le père de Léonard de Vinci et de Gaston Lagaffe, et pour ça, il est assez cher à mon cœur.
Vous parlez technique, vous parlez technologie. Les réseaux sociaux ont envahi nos vies. Facebook, Twitter, ils sont des miroirs dans lesquels on se contemple, tel Narcisse, évidemment, dans votre dessin. Narcisse devient de plus en plus petit à mesure qu'il fait des selfies, au point qu'il disparaît, il se transforme en fond d'écran.
Il est puni en finissant en fond d'écran de son propre ordinateur. Ouais. Et c'est finalement peut-être notre destin de nouveaux hommes aujourd'hui.
Vous pensez que ce narcissisme numérique constitue une menace pour nous ? Vous venez par exemple d'ouvrir un compte Twitter, alors que Twitter existe depuis longtemps.
Ah oui, alors ça fait trois
vous
semaines
avez pas peur de
que j'ai
tomber dedans.
Twitter, et je trouve ça assez amusant. Et je devais surtout... j'avais quelqu'un dans la compétition qui était le rappeur Jules, qui ça s'écrit pareil, ça se dit Jules comme ça. Et donc lui, il a des millions et des millions de gens qui le suivent sur tous les réseaux sociaux, donc c'est assez comique. Donc il a fallu que je fasse Jules, tiré auteur, pour essayer de me distinguer dans cette masse. Et du coup, non, c'est plutôt marrant, parce que en fait, c'est comme un journal malgré tout. Le vrai truc, pour moi, en tant que dessinateur, je me suis rendu compte que j'avais 20 ans ou 12 ans de retard par rapport à ça, parce que la presse papier dans laquelle j'ai énormément travaillé perd, voit ses lecteurs s'éroder, et donc cette nouvelle génération qui est assez lointaine de moi, mais j'étais plutôt l'homme de Silex and the City, du fond de ma caverne, je regardais ça un peu loin, et puis en fait, du coup, c'est plutôt marrant de pouvoir poster des dessins, c'est une façon d'avoir son propre journal.
Jules, on va poursuivre tout à l'heure nos échanges autour de cet album qui est vraiment excellent, je me suis régalé hier à lire tout ça, 50 nuances de grec, encyclopédie des mythes et des mythologies, c'est le premier album, donc il y en a un autre qui va venir probablement derrière, qui est paru chez Dargaud, si vous n'avez pas par exemple encore fait vos cadeaux de Noël, que vous aviez un petit peu de retard,
voilà, si vous voulez les échanger,
excellente
surtout.
Idée.
Contre tous celui-là. Les cadeaux pourris, vous pouvez le...
Non, celui-là il faut le garder. Vous restez avec nous Jules, on se retrouve dans une vingtaine de minutes, il est 8h, vous écoutez France Culture, bienvenue à ceux qui nous retrouvent et qui se réveillent maintenant.